Quid Novi, Distingo.
La mort d'un animal de compagnie, c'est une véritable souffrance pour son propriétaire, une douleur souvent mal comprise par l'entourage. Marina von Almen-Balmeni est vétérinaire à Neuchâtel et auteur d'un livre « Quand l'animal s'en va, gérer la perte de son animal de compagnie ». Dans son cabinet, elle est confrontée au quotidien à la mort des animaux et à la souffrance de leur maître.
Le thème de la mort est un thème qu'on aborde tous les jours, soit parce que il y a un animal qui meurt chez nous ou qu'on nous annonce qu'il est mort, soit parce qu'on doit l'euthanasier, soit encore parce qu'on décèle une maladie incurable et puis qu'on doit annoncer à la personne que son animal n'en aura plus pour longtemps à vivre.
Donc vous observez cette souffrance chez les propriétaires d'animaux. Est-ce que ce deuil, est-ce que cette souffrance est comparable à celle qu'on peut ressentir quand on perd un être cher, un proche ?
Oui, c'est absolument comparable, même si quelqu'un qui n'est pas confronté à ça, quelqu'un qui n'a jamais eu un animal, peut dire non, mais quand même, il devrait y avoir une différence entre une personne et puis un animal. Alors, individuellement, il y a des différences. Il y a quelqu'un qui dira, ben moi, je vais être plus triste si c'est un proche de ma famille qui meurt que si c'est un animal. Et puis pour quelqu'un d'autre, ce sera peut-être tout à coup le contraire. Ça dépend de son vécu. Je veux dire, quelqu'un qui a vécu que des mauvaises expériences avec des humains, ben tout à coup, il va beaucoup plus aimer son animal qu'une personne. Ça va le toucher plus. Et puis, le processus de deuil est le même parce qu'il y a une perte. Et chaque fois qu'on a une perte, que ce soit celle d'un être cher ou bien la perte de n'importe quoi d'autre, nos capacités physiques, notre patrie, nos illusions, notre emploi, enfin, quelque chose qu'on a eu, qu'on n'a plus, quand on peut dire il y a un avant, un après, il y a un plus jamais, ben, ça déclenche un processus de deuil qui est le même pour toutes ces histoires, similaire, parce que pour chacun le vit à sa façon.
Vous avez dit, les mots-clés, c'est peut-être le plus jamais, ce sera plus jamais comme avant.
Tout à fait.
Là où c'est peut-être difficile dans le cas d'un animal, c'est que l'entourage, les gens autour ont peut-être du mal à le comprendre.
Absolument. Alors, à ce niveau-là, le deuil pour un animal peut être plus difficile que celui pour une personne, parce que quand on perd une personne chère, bien, tout le monde le sait, il y a l'enterrement, et les gens qui vous entourent, on vous téléphone, on vous écrit des lettres, vous ne vous sentez pas seul, vous vous sentez compris. En tout cas, dans les premiers temps, des fois, ça s'arrête au bout de quelques mois. Mais pour un animal, très souvent, dès le départ, on n'a personne à qui on peut en parler. Des fois, il y a des moqueries, des gens qui ne comprennent pas. Alors, les propriétaires, ils se sentent désemparés, se gênent d'en parler. Des fois, ils ont même honte d'en parler. Et du coup, puisqu'ils ne peuvent pas exprimer cette émotion qui est présente, ce sera encore plus difficile pour eux de passer le cap.
Donc vous, c'est en constatant ça dans votre cabinet, auprès des propriétaires des animaux dont vous vous occupez, que vous avez été amené petit à petit à créer ces groupes de parole, ces cercles de discussion sur le thème du deuil de son animal.
Tout à fait. Enfin, disons que ce n'était pas directement comme ça. Moi, dans un premier temps, j'ai écrit une petite brochure pour nos clients qui s'intitulait, enfin, c'était vraiment écrit en grand, mort, euthanasie, deuil, et trôné sur le bureau de réception. Donc, c'était la première chose presque que les gens voyaient en arrivant chez nous. Et puis, vraiment, j'étais tout le temps en train de réimprimer des nouveaux exemplaires. Et dans cette brochure, je promettais aux personnes qu'elles pouvaient venir nous revoir en cas de besoin, s'ils avaient envie de rediscuter de la chose. Et en même temps, j'ai dû constater que finalement, dans notre métier, est-ce qu'on a vraiment cette disponibilité de se prendre un moment pour reparler de la tristesse avec la personne ? Et je me suis dit, il faut faire autre chose. Donc j'ai créé ces cercles de parole.
Quid Novi, 8h30, 11h.
Pourquoi être en deuil pour son animal ? Bien, des personnes ne comprennent pas la souffrance, la tristesse, voire même le désespoir que peut ressentir un propriétaire qui a perdu son animal de compagnie. Le docteur Marina von Almen-Balmeli a pourtant constaté qu'il y avait un réel besoin pour les propriétaires de pouvoir exprimer cette souffrance. Elle a donc créé des cercles de parole pour les personnes en deuil de leur animal, pour les aider à vivre le mieux possible cette perte. Alors, comment se passe ces rencontres, Marina von Almen-Balmeli.
Alors en fait, j'organise ça sur 5 soirées. C'est des soirées à thème. Donc c'est bien cadré, c'est pas simplement une disponibilité où je dirais aux gens, bah voilà, je ne sais pas, tous les premiers mercredis du mois, je suis à votre disposition. Parce que ça, ça risquerait d'amener à des gens qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui racontent chaque fois la même chose et puis qui n'avancent pas. Alors que le fait de donner un cadre, de mettre vraiment des thèmes par soirée, ça les aide à avancer. En fait, on avance un peu au rythme du processus de deuil. Et la première chose qui les aide, c'est le fait d'être dans un groupe d'au minimum 5 personnes. Ça donne une certaine dynamique. Et ils se rendent compte que les autres personnes, même s'ils ont un deuil totalement différent, si la façon dont l'animal est décédé n'est pas du tout la même que leur, ils passent par les mêmes problèmes, les mêmes émotions. Notamment, et quelque chose qui revient tout le temps, c'est la culpabilité. Ça fait partie d'un processus de deuil normal, mais il y a certaines culpabilités qui restent vraiment incrustées. La personne est persuadée que si ça s'était passé autrement, elle ne serait pas dans le même état. Puis de voir qu'une autre personne, elle dit la même chose, quand ça s'est passé juste comme elle aurait souhaité que ça se passe, ben c'est une preuve, finalement, ça lui montre que ce ne sont pas les faits qui provoque sa tristesse, mais que c'est elle, ses émotions à elle, et puis que n'importe comment ça serait passé, ce serait le même résultat.
Quelque part, quand on prend un animal de compagnie, quel qu'il soit, on sait qu'il aura une durée de vie plus courte que nous. Est-ce qu'on peut s'y préparer, se préparer à l'avance, finalement, à la perte, à la mort de son animal?
Je dirais, on devrait savoir.
On
est censé savoir qu'un animal ne dure pas longtemps.
On ne veut pas le savoir.
Mais beaucoup de personnes ne veulent pas le savoir. Ils se voient de la face, enfin comme pour nous. Bien sûr que nous, on vit beaucoup plus longtemps, mais je veux dire, beaucoup de personnes, si vous leur dites qu'ils sont mortels et puis que ça ne va peut-être pas durer, elles changent de sujet tout de suite, si ce n'est pas carrément qu'elles partent en courant. Moi, je dis souvent... Par exemple, je profite de la journée d'aujourd'hui parce que je ne sais pas si c'est la dernière. On me traite de pessimiste. On me dit, c'est folle, mais pourquoi tu parles de ça? Quelle horreur. En Italie, on me dit carrément que ça porte malheur de parler de ça. Alors que je pense que si on s'y prépare, ben, on peut beaucoup mieux profiter de chaque instant qui se présente. Donc, se préparer à l'avance au fait qu'un animal ne va pas durer longtemps, je pense que c'est un cadeau quelque part. Enfin, on peut mieux profiter de la vie commune et puis vraiment faire plein de choses ensemble.
S'y préparer comment? Justement, en profitant de chaque moment.
Oui, exactement. Donc évidemment, ne pas se préparer dans le sens de se dire chaque seconde, mon Dieu, quelle horreur, il va peut-être mourir. Et puis en ne faisant plus rien, ça, ce serait contre-productif, ce serait juste l'effet contraire. Mais en se disant, bah, tiens, aujourd'hui, j'aurai la possibilité d'aller faire une super balade avec. Allez, je vais peut-être plutôt faire ça que de faire quelque chose d'autre que je serais peut-être obligée de faire, soi-disant, mais qui m'embête un peu plus. Et ce sera un souvenir en plus qu'on aura après. Parce que finalement, le but du processus de deuil, c'est ne pas d'oublier ce qui s'est passé, c'est plutôt de transformer ce manque, ce sentiment qu'on a tout perdu, qu'il n'y a plus tout ce qu'on avait, par le bonheur de tout ce qu'on a eu.
Quid de la vie ? Quid de la vie ?
On continue à parler du deuil de son animal de compagnie, un processus de deuil qui est comparable à celui qu'on vit pour une personne proche, avec les mêmes émotions, le déni, la révolte, la culpabilité, la tristesse et pour finir, l'acceptation. Mais qu'est-ce qu'il en est pour les enfants? Est-ce qu'en vivant le deuil d'un animal, ils se préparent aussi à surmonter le deuil futur d'un proche? La réponse du docteur Marina von Almen-Balmeli, vétérinaire et auteur du livre « Quand l'animal s'en va ».
Absolument, surtout qu'au jour d'aujourd'hui, c'est très rare qu'un enfant assiste à la mort de quelqu'un de sa famille. Dans le temps, il y avait peut-être un grand-père, une grand-maman qui était dans la maison, qu'on veillait pendant 3 jours. Donc l'enfant était vraiment inclus dans ce processus de deuil. Il savait ce que c'était la mort, alors que maintenant, c'est quasi jamais le cas. Et donc, le fait d'apprendre par rapport à la mort d'un animal, il peut se faire ses propres outils. Parce que ce qui est important, c'est qu'on explique tout à l'enfant, mais que ce soit lui qui, au fond, trouve la façon de faire le deuil, la façon dont il veut faire un rituel, je ne sais pas, par exemple, un enterrement, ou bien dessiner un dessin, écrire un petit poème s'il est plus grand, etc. Et tout ça, il pourra y revenir plus tard. S'il perd une fois quelqu'un de sa famille, ben, il a déjà passé ce cap, il a des outils. Vraiment, on remplit sa trousse à outils avec des choses pratiques qui pourront l'aider plus tard.
Vous parlez de ces rituels pour les enfants. Est-ce que vous conseillez, vous proposez aux adultes d'en faire aussi pour les aider dans cette étape? C'est vrai que ce n'est pas forcément courant de faire, par exemple, une sépulture pour un animal. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez?
Est-ce que je le propose? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que si la personne aimerait le faire, je trouve que c'est une bonne chose. Ils ont la possibilité, jusqu'à 10 kilos, de reprendre le corps de l'animal et de l'enterrer dans leur propre jardin. Condition de faire un trou assez profond pour qu'il n'y ait pas des renards qui tout à coup viennent redéterrer l'animal. Sinon, ils peuvent reprendre les cendres. Il faut aussi savoir que s'ils ne désirent pas reprendre les cendres, les animaux qui sont incinérés en groupe à Crémadog, Crémadog possède une espèce de champ dans lequel ils peuvent aller épandre ces cendres. Donc, ils feront à nouveau pousser des fleurs. Donc, de toute façon, ça, c'est quelque chose de joli qui se passe avec. Maintenant, je pense que beaucoup de personnes, ça peut les aider de faire un rituel. Que ce soit vraiment directement d'enterrer l'animal ou ses cendres, que ce soit d'enterrer un souvenir, par exemple, une touffe de poils, une photo, justement une lettre qu'ils auront écrite. Pour les enfants, c'est vraiment important. Là, je veux dire, c'est moi qui insisterai même un peu pour dire aux gens, proposez-leur, sans les forcer, bien sûr. Des fois, ils ne veulent pas. Et les autres personnes, c'est plutôt si elles me disent « Mais qu'est-ce que je pourrais faire ?» que je vais leur énumérer.
Une phrase qu'on entend souvent, que l'entourage peut dire au propriétaire qui a perdu un animal, c'est « Reprends-en un ». Est-ce que c'est une bonne idée ? À partir de quel moment c'est une bonne idée de reprendre un animal ?
Alors là encore, on ne peut pas généraliser, parce que chacun est vraiment différent dans toute sa vie, dans sa vision du monde, dans son vécu et puis dans son deuil. Donc il y a des personnes qui ne peuvent pas imaginer être une seconde sans un animal. Donc il n'y aura peut-être pas eu forcément une relation très personnelle avec celui-là, c'est simplement un animal. Donc celui-là n'est plus là, il m'en faut tout de suite un autre, parce que sinon je ne peux pas vivre. Il y en a d'autres qui disent non, il me faut d'abord une période de deuil. Souvent, ça peut être autour d'une année, mais certains, ce sera peut-être quelques mois. Des fois, c'est aussi le hasard qui fait des choses, et un animal tout à coup qui arrive, qui rentre dans le jardin. Ce que je trouve très dangereux, c'est si c'est les autres personnes vraiment qui obligent. Je veux dire, il y a des fois des parents bien intentionnés, ils se disent, mon Dieu, mon enfant est tellement triste parce qu'il a perdu un animal, je lui en rachète un. Et ça, je pense que c'est un très mauvais message à passer à l'enfant, parce que ça veut déjà dire qu'un animal est un peu comme un objet, qu'il est remplaçable. L'enfant, il vient de perdre un ami, il ne vient pas de perdre juste un animal. Et puis si on lui met un autre lapin, un autre chat dans la maison, ben, ce ne sera pas celui qui est mort. Et puis quand on donne un animal à une personne qui ne l'a pas demandé, elle ne va pas pouvoir créer un bon lien avec. Et donc, c'est le prochain animal qui risque d'en souffrir et de faire le rôle de l'animal de remplacement. Et ça, c'est très, très dur à supporter pour un animal. Ça peut aussi arriver des fois quand c'est la personne elle-même qui choisit. Par exemple, souvent, quelqu'un veut reprendre la même race d'animal. On le voit très souvent avec les propriétaires de boxers. C'est rare qu'ils prennent une fois une autre race de chien. Mais à ce moment-là, je dirais, si vraiment ils veulent reprendre un de la même race, essayez de reprendre soit une autre couleur, soit un autre sexe, pour faire moins de comparaisons. Parce que le nouvel animal, il va le sentir. Parce qu'on dira toujours, ouais, il est plus lent que l'autre, moins gentil, moins affectueux, moins intelligent, vif, etc. Et puis lui, il se dira, bien sûr pas avec des phrases, mais il sentira, quoi qu'il fasse, il sera jamais à la hauteur. Et ça existe au niveau de la zoopsychiatrie, donc de la médecine comportementale, le syndrome de l'animal de remplacement. Les animaux qu'on doit soigner psychiatriquement parce qu'ils se sentent tellement peu aimés qu'ils ne savent plus comment faire pour plaire à leur maître.
8h30, 11h, Quid Navi. Quid Navi. Aparté.
Vétérinaire à Neuchâtel, c'est en vivant et partageant au quotidien la douleur des propriétaires d'animaux en deuil que le docteur Marina von Almen-Balmeli a créé un site internet, des cercles de parole et a écrit un livre sur le sujet. Elle nous explique comment, en tant que professionnelle qui accompagne régulièrement les gens dans ces périodes douloureuses, elle parvient à maîtriser ses émotions.
En fait, il faut réussir à faire la différence entre l'empathie et la sympathie. C'est-à-dire que l'empathie, c'est qu'on essaie de se mettre à la place du propriétaire, de ce qui se passe pour lui. Donc on va regarder le monde avec ses lunettes à lui, se mettre dans ses baskets pour un petit moment. À la limite, je vais pleurer avec. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de honte à ça si je suis triste. Si cette situation-là me touche particulièrement, par exemple, un animal que j'ai suivi sur un long temps, donc je le connais bien, je l'aime bien aussi, bien un jeune où on se dit mais c'est pas possible, il doit mourir si vite, etc. Enfin, il y a vraiment des situations particulières qui sont très 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 bouleversantes aussi pour nous. C'est normal que je pleure avec, mais en même temps je garde une certaine distance parce que c'est pas mon animal, c'est pas mon deuil. La sympathie, ce serait vraiment ce qu'on appelle en allemand le Mitleiden, ça veut dire souffrir avec, qui peut aller jusqu'à être autant en deuil que le propriétaire et puis ne plus s'en remettre. Alors si vous vivez ça plusieurs fois par jour, je pense que ce ne serait pas très bon pour notre morale.
Pour conclure, on va voter là dans quelques jours sur cette loi pour l'institution d'avocat pour animaux. Votre avis en quelques mots ?
Alors moi je pense que c'est bien qu'on fasse des choses pour les animaux, qu'on défende leurs intérêts, mais j'ai l'impression qu'on est tout à fait bien lotis. Tout est en place, on a un vétérinaire cantonal qui fait ça très bien, on a les SPA qui font leur travail, il y a des lois qui protègent les animaux, et puis je veux dire, nous les vétérinaires, on est quand même là pour voir ce qui se passe. Jusqu'à maintenant, on a toujours dit que c'était nous les avocats des animaux. Ce qui me fait souci par rapport à un avocat, mais je ne suis, je pense comme tout le monde, pas au courant d'exactement comment ça se passerait si c'était le cas, c'est que j'ai peur d'un côté que ça coûte pas mal d'argent, pour des frais, des procédures, etc. D'autre part, j'imagine mal même un avocat qui a été formé pour connaître les besoins des animaux, de connaître les besoins de toutes les espèces, il y en a quand même beaucoup, et leurs besoins sont tout à fait différents, qui puisse faire beaucoup plus que simplement dire « j'applique la loi à la virgule ». Je veux dire, un vétérinaire, il peut dire « bon, bah, peut-être que cet animal-là, il a 2 cm carrés de pas assez de surface, mais c'est tellement bien compensé par tout ce que les gens font avec, les balades qu'ils font avec, etc., que finalement, c'est peut-être pas si grave. Enfin, je veux dire, on va beaucoup plus regarder au cas pour cas. D'autre part, on est aussi plus habitué à trancher rapidement. Chez nous, les gens qui prennent rendez-vous, souvent, ils viennent de jour même. L'urgence, c'est dans les minutes qui suivent, au maximum dans une heure. Les résultats d'une analyse de sang, on le donne le lendemain. On prend des décisions tout le temps, très très rapidement. Alors les procédures judiciaires, c'est des fois tellement long. Et moi j'ai vu déjà maintenant, quand on a des fois justement des histoires qui se mettent en place, parce qu'on a dû saisir un animal à quelqu'un, et puis qu'il y en a un qui dit qu'il est mal tenu, l'autre il dit que c'est la population qui a peur de l'animal. Enfin, vous avez plusieurs avocats qui sont en procès ensemble. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'animal, il répond pendant des mois et des mois dans une situation qui n'est pas du tout adéquate pour lui. Et moi, j'ai souci que ça renforce encore ça. Peut-être que je me trompe, et puis peut-être que ce serait très, très, très bien fait. À ce moment-là, ben, peut-être tant mieux. On dit que ce serait mieux parce que les sanctions seraient beaucoup plus sévères. Alors, c'est vrai qu'il faut des sanctions sévères, mais je crois que ce qui est beaucoup plus important, c'est de faire de la prévention, et d'expliquer aux gens comment il ferait bien de tenir un animal.
Le docteur Marina von Almen-Balmeli est l'auteur du livre « Quand l'animal s'en va, gérer la perte de son animal de compagnie ». Elle anime également des groupes de parole sur le sujet. Elle a créé un site internet consacré à ce thème. Vous retrouvez tous les renseignements sur le blog de Quid Novi, www.rtn.ch. Vous pouvez aussi réécouter cette interview et bien sûr déposer des commentaires si le cœur vous en dit.